بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بشفاعه الإسلام nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité dans cette période bénie, cette période Mubarak de l'année, c'est-à-dire la première décade du mois d'Al-Hijjah, qu'Allah nous a donné la possibilité de faire la prière en jama'at, en congrégation, et donc de nous asseoir quelques instants pour écouter les paroles d'Allah et les paroles de son prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez déjà entendu le hadith qui stipule que les meilleurs jours, les jours les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala de toute l'année, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. À un tel point que certains ulama sont même d'avis que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah ont plus de valeur que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Que les 10 jours de Dhul-Hijjah ont plus de valeur que la dernière décade du mois de Ramadan. C'est l'avis d'une grande majorité, une grande quantité de savants. Cela nous fait comprendre que ces 10 jours-là, ce sont vraiment des jours spéciaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il n'y a pas une période de l'année où les actions du musulman sont plus appréciées, sont autant appréciées par Allah que durant la première décade de Dhul-Hijjah. Alors si nous on n'a pas eu le tawfiq, on n'a pas eu la possibilité d'accomplir le pèlerinage cette année, le hajj, ben ne serait-ce qu'on essaie de faire un maximum de bonnes actions pendant cette période de Dhul-Hijjah et on essaie de faire le moins de péché, quitte à ne pas faire de péché du tout durant cette première décade de Dhul-Hijjah. Et si Allah nous permet ne serait-ce que de faire quelques petits efforts, quelques petites bonnes actions, entre autres le fait de s'asseoir dans un ta'lim, dans une assemblée où on parle du digne d'Allah, mais c'est déjà un effort qu'on aura fait et Allah Ta'ala acceptera et considérera ça comme faisant partie des bonnes actions qu'on va offrir durant cette première décade de Dhul-Hijjah. Alors mes chers frères, depuis pas mal de temps on parle de ce chapitre de Riyad al-Salihin, Bab al-Sabri, la patience. Et la dernière fois, on avait vu quelle doit être la réaction des parents si Allah les éprouve par la perte d'un enfant. On avait vu l'histoire d'un couple de sahaba et comment la femme de ce sahaba avait eu une réaction vraiment admirable face à la perte de son enfant et comment elle a pu contenir son émotion et faire en sorte que son mari n'apprenne pas la nouvelle d'une manière trop crue. Et donc, on a vu d'une manière générale comment les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in se comporter dans les moments de difficulté. On avait déjà vu également comment le musulman se doit d'être patient d'une manière générale dans les épreuves, dans les maladies, dans n'importe quelle chose qui peut l'atteindre, quelle doit être la réaction du musulman parce qu'il sait quel est l'objectif de l'épreuve, quelle est la sagesse qu'il y a à travers les difficultés de ce monde et quelle est la réalité de ce monde également. Que ce monde n'est pas un endroit où on vit avec tout le confort, tous les plaisirs. Ça c'est soit dans les films où on voit des gens, des acteurs qui vivent que des moments de bonheur. Voilà la vraie vie de bonheur pour le mu'min, c'est que dans l'au-delà. Lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam nous explique que ad-dunya, que ce dunya, que ce bas monde est une prison pour le croyant, si jinnul lil mu'mini wa jannatul lil kafir, mais c'est un paradis pour celui qui n'a pas la foi. Comprends bien qu'il n'y a pas un musulman, quel que soit son niveau de vie, il n'y a pas un musulman qui pourra vivre dans ce dunya avec tout le confort et toutes les facilités et avoir la tranquillité du cœur. Les épreuves, ça fait partie de la sunnah d'Allah pour la race humaine. On dit bien pour la race humaine. Parce qu'Allah Ta'ala n'a pas éprouvé les anges. Les malaïkas ne sont pas éprouvés et n'ont pas besoin d'être éprouvés. Pourquoi? C'est quand Allah éprouve quelqu'un, on avait déjà expliqué, Allah Ta'ala veut pardonner ses péchés. Allah Ta'ala veut augmenter son grade et Allah Ta'ala veut lui accorder des récompenses. Alors que les malaïkas, ils ont déjà un degré élevé. Ils n'ont plus besoin d'avoir un degré plus élevé. Les malaïkas, les anges, ne font pas de péché. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des actions qui vont permettre l'expiation de leurs fautes. Et les malaïkas n'ont pas besoin de faire plus de bonnes actions parce que leur vie, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la race humaine. Maintenant, dans la race humaine, on a ceux qui ont iman en Allah et en son prophète et ceux qui n'ont pas iman en Allah et son prophète. Pour ceux qui n'ont pas le iman, les épreuves ne leur apportent strictement rien de ce dunya, malheureusement. Et c'est là qu'on distingue quelle est la qualité, quelle est la récompense du musulman lorsque notre prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la situation du musulman est vraiment exceptionnelle. Quand Allah lui accorde un bienfait, il remercie Allah et ça c'est un ibadat, Allah est satisfait de lui. Et nous savons que Allah azza wa jalla dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Quand on remercie Allah d'un bienfait, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Allah, il donne plus. Et le prophète Sallam, il revient à la suite du hadith, et si Allah l'éprouve, Allah l'envoie une difficulté, il fera preuve de sabar, et ce sera une bonne action pour lui également, faire preuve de sabar. Et c'est sur ce point-là qu'on a insisté depuis pas mal de temps, jusqu'à voir quelle est la réaction, donc, comme on a dit tout à l'heure, de ce couple de sahaba qui avait perdu leur enfant. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir brièvement, un point très bref, on ne va pas être très long, un point très bref, quelle doit être la réaction du musulman face à la colère. Et ça, ce n'est pas évident. Ça, ce n'est pas évident. Quand quelqu'un, vraiment, il arrive dans une situation où il est, comme on dit, il va péter un câble. Ça se dit, péter un câble. Ou alors, la personne va craquer, va exploser, et qu'il est en droit de le faire. C'est-à-dire que je suis dans une position où la personne en face m'a fait du tort. Et que peut-être que je lui ai déjà pardonné une fois, deux fois, mais la personne continue. Que si j'explose, si je lui dis ces quatre vérités, si je m'énerve, si je m'emporte, peut-être que dans le fond j'ai raison. Dans une situation où j'ai raison. On parle de la situation où j'ai raison. On parle dans une situation également où on a raison et on a la possibilité d'exprimer sa colère. Maintenant, si on est opprimé, on ne peut pas crier, on ne peut pas se bagarrer. Au contraire, quand il y a une situation de... Ce sera des situations de frustration. On va être attristé. Mais là, on parle quand on est dans une situation de... Une position de force et quand on a raison et quand on est en droit de laisser sortir notre colère. Quelle doit être la réaction du musulman? Est-ce que je peux me laisser aller à tous mes sentiments, à m'énerver, à dire ce que j'ai envie de dire quand je suis en colère? On va voir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous raconte... Abu Huraira raconte plutôt que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: "Laysa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Deuxième hadith, wa 'an Sulayman ibn Sarad radiyallahu anhu qala: "Kuntu jalisan ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa rajulan yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم رواه البخاري ومسلم. Dans ces deux hadiths, nous avons premièrement une citation du prophète عليه الصلاة والسلام qui explique: c'est qui l'homme fort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre dans le premier hadith que l'homme fort, ce n'est pas celui qui est fort physiquement. Ce n'est pas celui qui a des muscles, qui a des pectoraux, qui a des... Je ne sais pas comment on appelle le reste, moi je n'en ai pas, des pectoraux, des dorsaux, des trucs, quelqu'un qui est baraqué. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui qui est... Ce n'est pas l'armoire à glace de 2 mètres, soit 150 kilos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que l'homme fort, c'est celui qui... lorsqu'il a la possibilité de se mettre en colère, ben cette personne sait faire preuve de sabr. Cette personne arrive à se contrôler, à contrôler ses pulsions, il arrive à, comme on dit, à avaler sa colère et il fait preuve de patience, il ne laisse pas sa colère avoir le dessus, donc sur lui. Et dans le deuxième hadith, un sahaba rapporte que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait deux personnes qui étaient en train de se chamailler. Et à un tel point qu'ils étaient en train même de s'insulter. Et le prophète était présent, il les voyait. Et une personne, une de ces deux personnes, était tellement en colère que son visage est devenu rouge. Ça se dit, ça, être rouge de colère. Mais ça, c'est dangereux aussi, ça. On verra que même sur le plan scientifique, et les médecins disent qu'il ne faut pas se mettre trop en colère. Comme il dit, le sang monte à la tête. Et des gens, quand ils se mettent trop en colère, ils peuvent faire un arrêt cardiaque ou un AVC ou autre chose, qu'Allah protège. Quand le corps est trop chaud, la tension monte trop, ben ça peut être très mauvais pour la santé. On continue. Cette personne est devenue rouge. Rouge de colère. Et le prophète a dit au sahaba, a dit que si cette personne-là, il avait prononcé cette formule, « A'udhu billahi minash shaitan rajim », alors immédiatement sa colère se serait évacuée. Cette personne ne se serait pas mise dans cet état si elle avait prononcé « A'udhu billahi minash shaitan rajim ». Et en commentaire, les muhaddithines expliquent que la colère, c'est quelque chose qui vient directement de shaitan. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de nature, de... Il y a de ça aussi. Il y a des gens qui sont à tendance colérique, d'autres qui sont plus calmes. Mais quand vous voyez quelqu'un qui explose de colère, qui devient rouge, qui se met à insulter tout le monde, à jurer, et prêt à dire des choses qu'il n'aurait pas dit en temps normal, quelle que soit les tranches d'âge, hein, ça c'est quelque chose qui vient directement de Shaitan. Là on ne parle plus de caractère là. C'est quelque chose qui vient directement de Shaitan. C'est comme une braise. Les commentateurs disent que c'est comme une braise que Shaitan met dans le cœur de l'être humain. C'est une expression, hein, comprenez, c'est un exemple. C'est comme s'il y avait une braise qui était mise dans le cœur. Et là, tout le corps va répondre à cette colère. La personne va devenir rouge. Hein, les veines vont sortir. Quand les yeux, parfois, les veines aussi sortent, deviennent rouges. Quand la personne va parler, elle va trembler, hein, etc. Ça, c'est vraiment une manifestation de l'emprise de Shaitan sur cette personne. Et dans ces grands moments de colère, un monsieur, il peut frapper son épouse. Le monsieur, il peut donner talak à son épouse. Le monsieur peut dire la plus grosse bêtise de sa vie. Dans ce genre de moment, le monsieur peut dire à sa femme, dégage, sors de ma maison, je te donne tes 3 talak ou je te donne 10 000 talak, sors de chez moi. Ou un papa peut maudire son fils. Si son fils lui a vraiment mis en colère, pour quelle que soit la raison. Mais le fait de s'emporter peut dire que tu sois maudit. J'espère que tu finiras à la rue, des trucs comme ça. Et ça, ça arrive, ça. Et le doigt d'un papa pour son fils est accepté. Donc à tous les niveaux, quelle que soit notre position, que je sois un papa, que ce soit une maman, que ce soit un enfant, quelle que soit la position, une personne qui se met en colère, c'est Shaitan qui est en train de prendre possession de son esprit. Et Shaitan va lui faire prononcer des choses que, à froid, attendez 20 minutes, 30 minutes lorsque la personne se calme, ou une demi-heure pour les moteurs, elle est beaucoup plus chaud. Hein. Quand la personne réfléchit, dit comment j'ai pu dire ça ? La personne va avoir des regrets. Il va se dire que ma réaction était démesurée. Il n'y avait pas besoin de s'énerver comme ça. J'aurais pu l'expliquer, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris de le frapper ? Qu'est-ce qui m'a pris telle chose ? En général, quand on pense à tout ça, c'est qu'on est déjà mal antique, ou alors qu'on a déjà blessé quelqu'un, on a déjà donné talak à une personne, et c'est là qu'on a des remords. Quand cela arrive à des gens qui ont bu, on dit ils ont bu, qu'Allah nous protège, alhamdulillah. Mais quand ça arrive à des gens saints d'esprit, des gens qui sont religieux et tout, c'est que Shaitan a eu le dessus, que Shaitan a été plus malin, qu'il y a une phase où on décide. Ce n'est pas quelque chose de spontané, ça, de se mettre en colère. Il y a une phase, un laps de temps, où le cerveau peut se décider de se mettre en mode colère, ou alors en mode à ramasser sa colère et faire preuve de sabar. Le deuxième mode est beaucoup plus dur. Ça se cultive, ça se ramasse, ça se cultive, ça se travaille. Tandis que laisser exprimer sa colère, hein, ça c'est beaucoup plus facile. Ça c'est un peu l'expression, ça c'est un peu les sentiments animaux qui sortent, hein, de l'être humain. Donc le prophète al-salam nous a expliqué dans ce premier hadith, premièrement, que l'homme fort, c'est pas celui qui a des muscles, c'est pas celui qui est fort physiquement, c'est celui qui, dans les moments de colère, et quand on a dit quand la personne a raison, et que la personne est en droit d'exprimer sa colère, là la personne fait sabr. Ça aussi, ça s'appelle faire sabr. Faire preuve de patience, la personne contrôle sa colère. Ça, c'est un homme qui est fort. Vous avez la force mentale est beaucoup plus importante que la force physique. Regardez dans des situations difficiles de la vie, des situations difficiles, il y a parfois des gens qui sont très forts, très costauds, mais ils s'affolent. Il y a comme des petites, comme des femmelettes. Un gros monsieur, il est costaud, il se met à pleurer, il se met à affoler, il ne connaît plus que vous faire. Hein, un jour, ça n'arrive pas, hein, Inch'Allah. Imaginez un jour, vous êtes pris d'un ascenseur. C'est bloqué. Vous voyez un gros monsieur, un gros larmoir à glace, ben en général, c'est les gros, les costauds qui s'affolent en premier. Ils disent, ah, mais c'est un mort au moment et tout, comme ça, mais c'est arrivé et tout, que, etc. C'est-à-dire, la force physique, c'est bien ça, quand vous avez des soucis dans la rue, quand on a un petit compte à régler. Bon, ça, c'est autre chose. Mais la vraie force, c'est la force mentale. Petit exemple, hein, si vous regardez le documentaire, regardez comment les GIGN s'entraînent. Regardez comment les bérets verts s'entraînent. Hein. Ils font tout le système, tout l'entraînement, 2 ans, 3 ans, ils sautent en parachute, ils font tout ce qu'il faut. Test de résistance et tout. Mais à un moment donné, à la fin du stage, il y a toujours un test psychologique. Comment on va faire ? Bon, ça c'est des documentaires, hein, mais je pense que ça se passe vraiment comme ça. On kidnappe la personne, on l'amène d'un endroit, on le ligote, il va rester amarré 3 ou 4 jours. Quitte à le torturer un petit peu. Mais en France, ils ne le font pas. Mais dans les pays d'Amérique du Sud, pour former les vrais commandos, on torture, électricité, fil de fer, pour voir si la personne parle ou ne parle pas. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler le mental de la personne. On va prendre quelqu'un, on va le mettre dans un marécage, pendant je ne sais pas combien de temps, la tête sous l'eau, tirer, remettre, etc. Pour voir est-ce que la personne va avouer quelque chose, ou il y a un secret, un code à dire, à ne pas dire. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler le mental de ces gens-là. Parce que les Occidentaux ont compris qu'un homme fort sur le terrain ou dans la vie, c'est quelqu'un qui est fort dans sa tête. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il y a quelque chose qui l'énerve, il crie, il s'énerve avec tout le monde, on a l'impression qu'il est bouglé. Il est chaud, hein, c'est un bouglé. Il est fort, il est fort. Il a du caractère, il n'a pas de caractère. Quelqu'un qui crie pour un oui, pour un non, il ne faut pas penser que oh, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est quelqu'un qui se laisse aller à ses sentiments. Il se laisse aller à ses sentiments. Quelque chose qui l'énerve et il crie. Ben, c'est un sentiment presque animal, ça. C'est-à-dire qu'il n'a aucun self-control. Il n'a aucun contrôle sur soi. Il n'a pas le moindre degré de savoir. Un homme fort, quand on le répétera encore une fois, c'est quelqu'un qui sait se contrôler dans la colère. Et vraiment, mes chers frères, comme on l'a dit tout à l'heure, ça, c'est les pires moments, ça. Il y a même, hein, on avait discuté avec des personnes qui soignent les gens qui sont atteints de cirque, de sorcellerie ou autre chose, dit que les shaitans ont une emprise spéciale sur une personne. Comment parfois les shaitans ils peuvent accéder à une personne? Parmi les cas de figure, c'est quand la personne est très en colère. Quand la personne explose de colère, là, shaitan, il trouve une entrée directe, il peut pénétrer dans la personne. Ça, c'est certaines personnes qui ont expliqué. Et ça rejoint ce que le prophète a dit, que la colère, ça vient de shaitan. Et donc, c'est pour ça que le prophète a dit, dans le deuxième hadith, que si la personne avait lu cette formule, tout ça serait passé. Pourquoi? Parce que comme shaitan est en train de prendre la possession de votre corps, pour que vous frappez, vous injuriez, vous donnez divorce ou vous maudissez quelqu'un, ben si vous dites, A'udhu bin al-Shaytan, je demande protection à Allah, auprès d'Allah, contre Shaitan, le rejeter, ben là, Shaitan, il va s'enfuir et comme par magie, l'effet de la colère va s'estomper. Il y a une petite, il y a un masla aussi, hein, le prophète, A.S. a interdit à un juge, un qadi, de prononcer un jugement alors qu'il est en colère. Si le qadi est en colère, alors il n'y a pas, mais vous savez qu'aux îles Comores, chez vous, il y a des qadis. Si un qadi est en colère, il ne faut pas qu'il prononce le jugement. Pourquoi? Parce que le fait d'être déjà en colère à l'avance, ben, ça veut dire qu'il ne sera pas objectif de ce jugement. C'est comme il y a certains moulissab, hein, quand le moussaf il prend la collègue deux élèves, ben, quand vous arrivez sur le sabbat avec lui, vous faites un faute, il dit ouais, canon. Parce que vous la ramassez pour tout ça que la lien mal avant. Vous la ramassez pour les 20 fautes qui étaient faites avant. Ça, c'est injuste, ça. Ça, c'est injuste, d'accord? C'est pour ça qu'un juge ne doit pas donner de verdict quand il est chaud. Quand il est en colère. Ça, c'est une petite anecdote. Donc, en commentaire, il dit que quand quelqu'un est en colère, maintenant la solution, qu'est-ce que je dois faire si je suis extrêmement en colère? Parce que ça nous a enseigné que la première chose, c'est essayer de se contenir. Deuxièmement, lire A'udhu billahi minash shaitan rajim. Troisièmement, faire le wudu. Parce qu'en faisant les ablutions, shaitan va sortir. Il dit que oui, mais là, maintenant en colère, il y a un problème pour madame, mais ça, il fait wudu, mon frère. Vaut mieux ça fait 4 faras wuzu que vous donne 4 talak à madame et que vous pleure toute vie des larmes de sang parce que cette épouse ne reviendra plus jamais pour toi. Parce qu'après 3 talak, c'est fini. Il ne reviendra plus jamais. D'accord? Vaut mieux faire 4 faras du wuzu, laver son visage, les bras, les cheveux, la tête et les pieds plutôt que de prononcer telle ou telle parole. Et également, le prophète al-Hassan nous a enseigné que si quelqu'un est très en colère, si la personne est debout, la personne devra s'asseoir. Les ulama disent que le fait d'être assis, ben, vous allez vous contenir. Vous n'allez pas donner quelqu'un un coup de poing assise. Et si la personne est assise, il va s'allonger. Si la personne est allongée, il y a une hikmat aussi, c'est quand on est allongé, hein, le sang circule moins vite. Donc, shaitan a moins d'emprise que shaitan, il circule avec le sang. D'accord? Et si vous allongez, que vraiment c'est un moment où vous savez que soit m'y allonge, soit m'y finit son race. Donc autant vous allongez, à moins que vous êtes un spécialiste de ben, d'affaires brésilien, la Muay Thai, je ne sais pas quoi, ben, d'affaires, ça y bataille allongé, il trappe. Bon, ça c'est un cas de figure à écarter complètement. Mais changez de position. Quand vous êtes chaud avec quelqu'un, en général, comment ça se passe? Commence à crier, ou jouer à l'île, jouer à où? Après, comment se fait ça? Pousse un petit coup, le premier l'a poussé, il gagne le premier canon. Après, il est parti, là, il n'arrête plus, là. Et le moune y interpose, il gagne aussi un aussi, jusqu'à ce que les deux la finissent saoulés un peu, et après la police y arrive, après il faut aller garde à vue 24 heures, après on regrette, après il faut passer devant le juge, après il faut dédommager à lui, il a cassé un dent, il faut, etc. Il a été, je ne sais pas comment il dit ça, ou un juge d'arrêt, etc. Et puis on se dit, je vais prendre la colère avec lui juste parce qu'il a garde à mon, je ne dis pas gros mot, quoi, il a garde à mon travers, juste ça, je vais prendre la colère avec lui, ça c'est entièrement shaitan. Parce qu'après coup, je me dis comment un monde comme moi l'a pu dire de telles choses. Ça, c'est Shaitan qui a l'emprise sur l'homme quand il se met dans ses états. Donc, on a compris quelles sont les solutions. Quand on est très en colère, faire sabar, arrête de Shaitan Rajim, wuzu, et changer de position. On terminera avec un hadith dans lequel le prophète dit que, alors là, c'est les vertus. Ça, on va passer parce que sinon, on va aller, ça va être trop long. Et le terme, c'est Al-Ghayd. Al-Ghayd, hein, c'est vraiment cette colère qui peut amener vers des gestes ou des choses que la personne pourra regretter. On ne parle pas d'une petite colère, on fait des reproches à quelqu'un. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment les gros accès de colère. On terminera avec Ibn Kathir, rahimahullah, dans le commentaire du verset, un merveilleux verset du Coran, lorsqu'Allah Ta'ala décrit Uiddat al-Muttaqin, le paradis qui a été préparé pour les gens qui ont la crainte d'Allah de leur cœur. Et là, Allah Azza wa Jalla explique c'est qui les Muttaqin? Alladhina yunfiquna fi s-sara'i wad-dharra. Les gens qui donnent dans le chemin d'Allah, dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Quand on a l'argent, on donne. Quand on n'a pas d'argent, on donne quand même selon nos moyens. Mais toujours donner dans le chemin d'Allah. Il continue wal kaazimina al-ghayza. Ceux qui contrôlent leur colère, wal 'afina 'anil nas. Et ceux qui pardonnent. Et les Moufassins disent que les deux choses-là, en général, ça vient ensemble. Ça, c'est la meilleure des réactions. Quelqu'un vous a fait du tort, vous faites sabar, comme on a expliqué, vous ne l'insultez pas, vous n'avez pas l'humilier, pardon, en public, vous n'avez pas le frapper, bien sûr, vous ramassez, vous contenez votre colère, et l'idéal, ça, c'est le top des tops, si en plus, à la fin, vous pouvez le pardonner, vous dites que, écoute, ça fait rien, amifa'oumam, je te pardonne, alors là, vraiment, là, c'est les qualités du mu'min. Mais qui peut faire ça? Et c'est pas forcément les gens qui ont plus de religion de la vie qui vont le faire. Wallahu musta'an. Ça, c'est quelque chose à travailler. Tout comme je travaille mon assiduité à la salah, mon assiduité à la lecture du Coran, etc., etc. Tout comme je travaille ma relation avec mes parents, ben ça aussi, c'est un domaine à travailler parce que sans ça, je ne ferai jamais partie des muttaqin. Je ne serai jamais un musulman avec la foi complète. Si je suis un grand imam, un grand fundi, tout ce que je veux, mais le moine, il chatouille à moi, il agace à moi un peu, je m'énerve, j'explose, j'insulte. Ben, je ne suis pas le taqwa. Même si j'ai une grande barbe, même si j'ai fait 15 ans d'études, je ne ferai pas partie des gens qui sont proches d'Allah. Parce qu'il me manque cette qualité, et ça, c'est une qualité qui est essentielle. Handa. On va terminer avec le hadith sur le boudou. Le prophète m'a dit que Innal ghadaba min ash-shaytan. La colère, ça vient de Shaytan. Wa inna Shaytan a khuliqa min an-nar. Shaytan a été créé de feu. Wa inna ma tutfa an-nar bil ma. Et le feu peut être éteint que par l'eau. Fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Donc si quelqu'un, hein, il se met très en colère, alors que la personne accomplit ce wuzu pour éteindre ce feu qui est allumé par Shaytan. Hadith dans Abu Daoud. Également, on montre que quand quelqu'un fait preuve de sabar, de la colère, Allah augmente son iman. Hadith dit que la personne qui fait preuve de patience, de la colère, ma kavamaha abdun lillah illa mala ajawfahu iman. Allah Ta'ala le remplira de iman. Ce musulman qui va faire preuve de sabar, qui va se contenir, Allah Ta'ala va lui accorder beaucoup de plus de iman. Le iman augmente dans ce genre de situation. Et si en plus, ça c'est le paroxysme, ça, wala afina anil nas. Si en plus j'arrive à pardonner à celui qui m'a fait du tort, alors là, notre prophète m'a dit que je fais qassam, hein, sur ces trois points. Jamais la sadaqa ne diminue les biens. Deuxièmement, lorsqu'une personne pardonne, Allah lui donne plus d'honneur. C'est-à-dire que quand parfois les gens ils croient que tu ou la pardonne Ali, tu ou la laisse Ali dire ou ça, tu ou pas dire rien, ou la pardonner, c'est comme si tu es ouais, d'accord, on a bien compris. Bien qu'on n'a pas rien été. On n'a pas le nœud pour rien. Non, mon frère. Quand on pardonne, illa, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا يَعْفُوا إِلَّا عِزَّا. Quand on pardonne, Allah vous donne l'honneur. C'est-à-dire, aux yeux des gens, vous serez considéré comme quelqu'un de respectable. Ne me demandez pas comment, quels sont les mécanismes, mais quand on apprend à pardonner, même si pas tout le monde a vu que j'ai pardonné quelqu'un, mais quand les gens vont vous voir, il y aura un certain respect. Hein, vous allez forcer l'admiration et le respect parce que Allah vous donne le izzat par rapport à ses réactions nobles. Et puis la fin du hadith, وَمَنْ تَوَابَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ. Lorsque quelqu'un s'humilie pour Allah, hein, Allah Ta'ala va élever cette personne. Et là, notre prophète alayhi salatu wassalam, hein, dit également que celui celui qui veut avoir de hauts degrés, qui veut voir ses degrés élevés, qu'est-ce que la personne doit faire? Pardonner à celui qui vous a fait du tort. Maintenant, quand on dit pardonner à celui qui vous a fait du tort, ça ne veut pas dire non plus de à chaque fois retomber de la même erreur, de le même panneau. Quelqu'un vous a fait du mal, vous n'allez pas vous venger, vous allez le pardonner. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez redevenir grand camarade avec lui, non. Parce qu'un musulman, la yuldarul mu'minu, le musulman ne tombe pas dans un même piège deux fois. Si quelqu'un il vous a fait une vacherie, quelqu'un vous a trahi, vous a fait quelque chose de vraiment mauvais, ben, vous le pardonnez, mais ne revenez pas camarade sans poisson avec lui, de crainte qu'il va refaire la même chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Continuez à faire salam, ça va aller bien et tout, fréquenter mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, on va pas il ne va pas redevenir mon confident, d'accord? Mais le pardonner. Mais ça ne veut pas dire non plus d'être machin, ben, on revient camarade comme avant, parce qu'il ne faut pas répéter, bien sûr, les mêmes erreurs. Donc, ça c'est une petite parenthèse. Donc, celui qui veut voir ses degrés élevés, pardonne à ceux qui lui ont fait du tort. وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَهُ. Celui qui vous empêche, celui qui vous fait du mal, qui ne vous donne pas, vous lui donnez. Et le plus beau, وَيَصِلْ, et le plus dur, وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ. وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ. Il garde les relations avec celui qui ne veut plus lui adresser la parole. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui ne vous fréquente plus, d'accord? Vous faites le premier pas vers lui à chaque fois. Pas une fois, deux fois, tout le temps. Vous l'invitez chez vous quand il y a une réception, quand il y a une invitation. Qu'il vienne, il ne vienne pas, vous avez fait le premier pas. Vous le voyez, vous le faites salam en premier. Même si c'est lui qui a tort, hein, et qu'il ne veut plus vous parler. Parce que le silatul rahim, on parle d'un autre sujet là, hein, le fait d'entretenir les liens familiaux, ce qui est une action énorme, cela concerne, c'est pas que quelqu'un est bien avec vous, vous êtes bien avec lui. Ça c'est facile ça. Hein, l'idéal, c'est quand c'est quelqu'un qui ne veut plus vous adresser la parole, c'est vous qui faites le premier pas, vous vous abaissez pour Allah dans le but de garder de bonnes relations. C'est pour ça qu'il est impossible qu'un musulman ait dit, on entend parfois, hein, les gens, ils disent, bah, vous connaissez, on l'a vu tonton là, l'autre coup, a dit, ah non, ça, nous, il fréquente plus depuis 2 ans, 3 ans. La famille fréquente plus depuis longtemps parce qu'elle a eu des problèmes. Ça, c'est impensable, ça, qu'un musulman. Et combien de fois on entend ça? Des gens qui disent, oui, tel tonton, oui, mais là, il ne vient plus la case, parce que depuis, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça, nous fréquente plus. On n'a pas le droit de faire ça, subhanallah. Au contraire, celui qui ne veut plus vous fréquenter, faites les premiers pas vers lui, et vous allez voir comment Allah Ta'ala va vous élever. Qu'Allah nous accepte, nous donne ses qualités, hein, le tout, ce n'est pas de raconter comment il faut contrôler sa colère, c'est vraiment le mettre en pratique. Parce qu'il n'y a pas une personne ici qui n'est pas à l'abri d'un accès de colère. Hein, on est des humains, avec des sentiments, avec des frustrations. Donc, la prochaine fois qu'on est dans une situation où vraiment on sent qu'on va péter un câble, on se dit qu'attention, ça c'est Shaitan qui essaie d'avoir une emprise sur moi, je vais me contrôler pour pas qu'il me laisse dire n'importe quoi, il fait n'importe quoi, je vais dire, si je peux faire le boulot, je le fais, mais je fais en sorte de ne pas laisser l'emprise à Shaitan. Qu'Allah nous accepte, nous donne la patience dans tout ce qu'on a expliqué et nous donne la possibilité de mettre en pratique. Mes chers frères, demain c'est le 9e de l'Hijja. Vous avez maintes et maintes fois entendu le hadith, un petit rappel qui est profitable pour le croyant. Avec moi aussi, j'ai un peu de récompense aussi, je vous fais le rappel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé du jeûne du jour d'Arafat en disant, « Ahtasibu ala Allah, j'ai espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » C'est-à-dire l'année écoulée. Vous savez qu'on est à la fin de l'année islamique, là, hein, après l'Hijja, c'est fini, c'est Muharram qui reprend. C'est-à-dire l'année 1400 combien 31 est terminée. Donc l'année est terminée. C'est-à-dire qu'Inch'Allah, par la baraka, la bénédiction qu'il y a de le jeûne du jour d'Arafat, c'est-à-dire demain, le 9e de l'Hijja, on aura les péchés de cette année, Inch'Allah, effacés, et Inch'Allah, les péchés de l'année qui va venir également. Parce qu'Allah Ta'ala, il est tellement karim, tellement généreux, Allah attend que le musulman, il fait un petit pas vers lui, pour lui donner en quantité. Vous vous rappelez les vertus de l'Aylatul Qadr, comment c'est énorme comme récompense, khairu min al-fisha, mieux que 1000 mois, ça fait plus de 70 ans, ibadat. Pareil, jeûnez un jour, c'est-à-dire demain, et Allah vous donne vous pardonne une année de péché passé, et l'année qui va venir. Faites-le avec la conviction qu'à l'issue de mon jeûne, de mon rosa, de mon somme de demain, j'ai mon année de péché qui a été effacée parce que Allah me l'a promis par le biais du prophète alayhi salatu wassalam. Alors bien sûr, la question qui revient souvent, Arafat, c'était aujourd'hui, c'est demain, c'est comment? Tout dépend de la vision de la lune. C'est le même masla qu'on a vu dans le mois de Ramadan concernant la nuit du destin. D'accord? Chaque pays, chaque continent regarde la lune et donc on se base sur ce qu'on a vu. Pour le continent, pour l'Arabie et la péninsule arabe, c'était un jour avant, donc ils ont fait beaucoup à Arafat aujourd'hui. Pour nous, le 9e, c'est demain. Et innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. C'est en fonction de l'intention qu'Allah nous rétribue. Moi, je sais dans ma tête que c'est demain le 9e, je jeûne demain. Vous croyez qu'Allah il va dire bon, la porte est fermée, maintenant on ne récompense plus. Na'oudou billah. Si Allah est capable de me pardonner deux années de péché, pour 24 heures de jeûne, vous pensez que pour un décalage d'une journée, il va dire que maintenant on ne donne plus? Allahu Akbar. Allah, il est grand, il est généreux, il est miséricordieux. Donc que je jeûne aujourd'hui avec l'Arabie, alhamdoulilah, si j'ai jeûné demain, selon le calendrier du lit de la Réunion et de l'océan Indien, d'une manière générale, j'ai fait mon jeûne du 9e de Dhul-Hijjah et Inch'Allah, j'aurai les récompenses qu'Allah Ta'ala a promis. Qu'Allah nous accepte. Et puis pour éviter toute divergence, l'idéal serait de faire quoi? De jeûner les 9 jours. Comme le Prophète l'avait fait, il est sunnah de jeûner depuis le 1er de Dhul-Hijjah jusqu'au 9e inclus. Ben là, on est sur le package complet. Allah nous accepte. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi Rabbil Izzati.